Elle avait 15 ans en 1940, 19 quand on l'a arrêtée à Avignon où elle s'était réfugiée après l'arrestation de ses frères en 1941 en région parisienne. Direction Drancy, avant le convoi 71 vers Auschwitz-Birkenau, puis Bergen-Belsen, Ragun et Theresienstadt. Sur le bandeau du livre qu'elle signe avec la journaliste Marion Ruggieri, on peut lire « Arrêtée par la Gestapo en mars 44 avec son père, son petit frère et son neveu, Ginette Kolinka est déportée à Birkenau. » Elle sera seule à revenir. Aujourd'hui, elle raconte dans toutes les classes de France pour qu'on n'oublie jamais. Et si elle passe aujourd'hui, le plus clair de son temps, à sillonner les routes de France pour raconter son histoire, alors nous, nous nous devons de l'accueillir à notre micro et de lui donner la parole ici, dans les matins du samedi. Ginette Kolinka, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc écrit ce livre avec Marion Ruggieri, Retour à Birkenau, qui est le récit de votre déportation. C'est un livre édité chez Grasset. Pour qu'on n'oublie jamais quoi?
Pour qu'on n'oublie jamais où mène la haine.
Ça, c'est votre cheval de bataille.
Ça, c'est mon cheval de bataille. Et je répéterai jusqu'au bout. Voilà où mène la haine. Il faut se mettre dans la tête que... Où mène la haine, ça amène à des Birkenau, Auschwitz, voilà.
Quelle que soit sa forme.
Exactement.
C'est pour ça que vous allez sans doute dans les écoles aujourd'hui, inlassablement parler aux enfants, leur dire ça.
Oui, mais déjà savoir pourquoi. Le pourquoi de ce début de haine. Et si on réfléchit, ben on s'aperçoit qu'il n'y a pas de raison. Moi, je parle de l'antisémitisme. Dites-moi pourquoi, voilà. Pourquoi? Le pourquoi? Si on cherche, on ne sait même pas. On ne sait même pas pourquoi. Mais souvent, c'est les préjugés, et c'est ça qui est triste.
Est-ce que la mémoire du passé, est-ce que votre expérience peut être utile dans ce combat que vous menez?
On peut toujours espérer. Je ne suis pas tellement optimiste là-dessus, moi. Mais on me répète toujours la petite graine. Et justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était déjà adulte et qui me dit « Mais je suis votre petite graine ». Ça, ça fait plaisir.
Ginette Kolinka, longtemps, vous n'avez pas voulu raconter votre histoire. Mais à personne, hein, même non, pas à vos enfants. Non. Vous disiez que raconter, en parler, c'était faire remourir ceux qui étaient restés là-bas.
Ce n'est pas tout à fait... Je ne cherchais pas si loin. Je ne voulais pas ennuyer les gens à raconter mon histoire.
Ennuyer.
C'était ennuyer, oui. Parce que quand on répète toujours la même chose, on arrive à embêter les gens. Votre auditoire, c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Alors vous allez raconter tout le temps, à chaque fois. Ah oui, tu manges pas, alors si t'avais été où j'étais, tu bois pas. Ah bah si t'avais été où j'étais, tu fais ça, ça, tu trouves que c'est comme ci, tu trouves que c'est comme ça. Ah si t'avais été où j'étais. Non, 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 pas du tout.
Donc il faut pouvoir raconter d'une certaine façon, sans sentimentalisme, sans trop d'émotions, sans s'effondrer, sans se plaindre. Vous donnez beaucoup de contraintes quand même.
C'est mon caractère. Je dis toujours, quand je parle, quelquefois j'ai l'habitude de dire « on ». Non, 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 je devrais dire « je ».
Parce que les souvenirs sont différents.
Eh ben
pour
oui,
chaque
mais
personne.
Chacun aussi a des caractères différents, des réactions différentes. J'ai des camarades qui sont pas d'accord avec ce que je dis et qui le sont peut-être pas, et qui vont peut-être me faire des reproches ou des reproches peut-être pas, mais qui vont dire je suis pas d'accord avec toi. Ça se peut. Je parle en mon nom. Et à mon nom, c'est comme ça.
Mais d'ailleurs, ça aussi, ça a changé, Ginette Kolinka, parce que des années durant, vous vous êtes retrouvée une fois par semaine avec des compagnes de déportation dans un café à Paris, aux Champs-Élysées. Mais alors, vous dites que vous parliez de tout, sauf de vos souvenirs de déportation. Et aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Vous racontez que vous ne parlez que de ça.
Ah non, doucement, oui. Je ne dis pas qu'on
quand
parle
même
que
pas
de ça. Non, pas du tout. Quand on est entre camarades, on ne parle pas de déportation. Je peux... poser des questions pour avoir des réponses à des choses que je ne me rappelle plus. Mais on parle jamais de déportation. Vous voulez qu'on se parle entre eux? Qu'est-ce qu'on a souffert et tout? On le sait. Non, non. Entre déportés, on ne parle pas de déportation.
Ah, ça, ça n'a pas trop changé alors. Non. Non, et vous dites quand même que c'est aussi, alors vous allez peut-être me contredire, mais que c'est grâce à Steven Spielberg que vous avez commencé à parler.
Oui, il a envoyé des cinéastes interroger les déportés survivants qui acceptaient de recevoir ces jeunes cinéastes. Il y en a un qui, d'ailleurs je ne me rappelle même plus de son nom, il est en Pologne maintenant. Eh bien, il m'a cassé les pieds pour que je le reçoive et je ne voulais pas. Puis à la fin, il m'énervait tellement, j'ai dit, allez, vous venez. Et c'est lui qui m'a décroché toutes ces idées. Je ne pensais même pas que j'avais un magazine des images comme ça. Moi, je n'avais pas chassé complètement cette période. On ne peut pas, c'est impossible. Mais c'était vraiment refoulé tout à fait dans le fond de mon cerveau. Oui, en m'amusant quelquefois, ça m'amusait, parce que j'avais envie de me plaindre que ma serviette était trop rêche. Et Ginette, arrête, tu n'en avais pas pendant 15 mois, donc ne te plains pas. Des choses comme ça, mais ça m'amusait. Pas, c'était pas tragique, mais c'est tout, c'est à moi que je me parlais, pas aux autres.
Est-ce qu'émotionnellement, justement, le fait de se rappeler cette histoire et d'en parler, et de se rappeler très précisément ces souvenirs, ces images que vous évoquez, Ginette Colinca, est-ce qu'émotionnellement, les choses ont changé avec le temps, avec le fait de les convoquer, ces souvenirs? Est-ce que c'est toujours aussi douloureux aujourd'hui d'arriver à se souvenir de ça? Ou est-ce que vous le mettez à distance?
Non, je ne vais pas dire que ça soit douloureux pour moi. Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu ce que... Je me dis,
ce que vous avez vécu.
Comment tout en parlant, et c'est de plus en plus que je me dis comment qu'on a pu en revenir. Mais il y en a tellement, tellement qui n'en sont pas revenus. Alors, on est très, très peu. Mais justement, c'est très, très peu. Quand je raconte, je me dis, mais comment qu'on a pu faire ce qu'on a fait? Comment qu'on a pu supporter ce qu'on a supporté? On était plus jeunes. Ça y fait aussi, peut-être.
Est-ce que c'est une question que vous posent les enfants? Comment vous avez pu vivre? Qu'est-ce qui vous a sauvé?
Je ne peux pas dire exactement ce qu'ils nous posent comme question. J'avoue franchement que je devrais les noter, mais ils ne nous posent pas tellement des questions comme ça. Très très peu nous parlent comment vous vous êtes nourri. Très très peu nous demandent comment vous vous laviez. Alors quand ils parlent de l'hygiène, c'est pour les règles. Avez-vous vos règles? Mais jamais on vous demande, et j'aurais bien aimé qu'on me pose cette question, comme vous vous l'aviez. Parce que il y a très très peu de temps que j'ai réalisé qu'à Birkenau, je ne me lavais pas. Et si on m'avait posé la question avant, j'aurais peut-être pensé plus tôt.
Il y a quelque chose aussi que vous craignez, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre ouvrage « Retour à Birkenau », Ginette Colinca, c'est que vous craignez qu'on pense que vous avez exagéré. Et c'est la fin de ce livre. J'espère que vous ne pensez pas que j'ai exagéré.
Oui, oui, oui. Je le crains pas. Je le crains pas. On croit ce qu'on veut. Mais j'espère qu'en effet, les gens qui lisent mon livre ne pensent pas que j'exagère. Non seulement je n'exagère pas, mais même c'est en dessous de la vérité.
De la réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire.
On ne peut pas réaliser, puisque nous-mêmes, on a du mal à le réaliser. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas vécu ça puisse le réaliser? Même quand on dit « on est battu », qu'est-ce que vous voyez quand on est battu? Votre maman qui vous avait donné une gifle. Mais moi, quand je dis battu, moi, je vois quelqu'un par terre, avec encore le... et continuer à être battu à coups de bâton, à coups de pied, à coups de bottes, à coups de... Voilà la différence. Donc, on peut pas se mettre à la place. Et on peut imaginer et avec du mal. Avec du mal. Et si on imagine, ça sera encore en dessous de la vérité.
Vous racontez qu'il fallait aussi savoir se défendre, parce que entre déportés à Birkenau, évidemment, il fallait savoir se défendre pour sauver sa peau à certains moments, et que quand on volait du pain, alors on disait pas voler, on disait organiser.
Ah oui, j'allais vous reprendre.
Non, je vous ai lu, Ginette Colinca. On disait organiser au lieu de dire voler. Mais donc, il fallait savoir riposter.
Peut-être, mais ça servait pas à grand-chose. En tous les cas, j'étais pas parmi les gens qui savaient se défendre. Je suis la petite dernière d'une grande famille, donc quand on est la petite dernière, on ne sait pas se défendre. On a tout, on vous a chouchouté, on vous fait, la petite dernière, on fait tout pour elle, elle fait jamais rien. J'avais 19 ans, à 18 ans, je me suis jamais choisi une robe. On le faisait pour moi, voyez. Et d'un seul coup, faut que je me débrouille. Non, j'étais pas débrouillarde, j'étais pas démerdarde, mais je suis là quand même.
Oui, d'ailleurs, il y a une robe qui vous a sauvé la
vie. Ah oui, ça. Alors ça, c'est en arrivant que ça m'a sauvé la vie, je pense. Et donc, en arrivant, c'était déjà beaucoup. Mais cette robe, dans mes souvenirs, elle a été organisée aussi, je la revois plus.
Racontez-nous. En quoi elle vous a sauvé la vie. Racontez-nous cet épisode avec Simone Veil.
On arrive. Vous apprenez que vous avez envoyé votre père, votre frère monter sur les camions. Quand les faisant monter sur les camions, vous les avez envoyés à la mort. C'est déjà un choc terrible, ça. Après, on vous déshabille, on vous met nu, vous vous rendez compte. Pour moi, cette nudité, ça a été quelque chose d'affreux. J'étais pudique, plus que pudique, nue devant des gens que vous connaissez pas. Après, on vous rase, on vous tatoue. D'abord, le rasage, le tatouage, j'ai rien ressenti. La honte d'être nue. Et puis alors après tout ça, naturellement, d'un seul coup, on vous met des affaires sur le dos qui sont ridicules. Je dis pas qu'elles étaient déchirées, mais vraiment, on s'occupe pas si ça vous va comme taille, si c'est trop petit, si c'est trop grand. On vous jette des affaires et vas-y, débrouille-toi, les chaussures. Pas. D'ailleurs, quand on est jeune, on arrive à rire à un moment donné. Et moi, j'ai ri de voir les copines avec les plus de cheveux. Avec des affaires ridicules sur le dos. C'est difficile de dire exactement le ressenti.
Et donc cette robe de Simone Veil.
Ah là, voilà, vous voyez, j'étais partie dans des détails qu'il fallait hors sujet.
Non, sans pas hors sujet, Simone, Ginette Colonna.
Je suis dans une... au début, on est en quarantaine, ça veut dire que le travail n'est pas obligatoire. Donc, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de volontaire. La capo qui vient nous chercher pour le faire à un travail, eh bien, elle nous prend de force. Et je me retrouve avec plusieurs jeunes femmes. Je me rappelle que de Simone, parce que je suis avec elle à un moment donné. Il pleut des cordes. On passe devant un mirador qui était... les miradors en hauteur, donc pour aller en hauteur, il y a une espèce de vestibule. On passe devant avec la capot. Est-ce que je suis toute seule avec Simone ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne m'en souviens pas. Cette capot qui a la réputation d'être la plus terrible, ou tout au moins une des plus terribles, voit ce mirador ouvert. Il pleut tellement, alors elle nous fait... rentrer toutes les deux, ou les autres aussi, peut-être, je ne m'en souviens pas, les autres. Hein. Et je me souviens qu'il y avait de la laine de verre, il était en réparation, et bien, on s'est couché sur cette laine de verre, ça devait donc m'en gratter, hein. Et toutes les deux, on était l'une dans l'autre pour se tenir chaud, parce qu'il pleuvait et qu'on était mouillé, qu'il faisait froid, et bien, on s'est endormi. Mais naturellement, la capo, quand la pluie a commencé un petit peu à ralentir de force, elle nous fait sortir. Et c'est là qu'elle est tombée en extase. Était comme si, était trop belle, était trop comme si, était trop comme ça. Moi, j'étais à côté. Elle dit à Simone, je t'amènerai des robes. Elle lui a amené les robes. Et je pense que Simone, voyant que moi, je suis à côté, je suis un peu plus âgée qu'elle. On a 2 ans d'écart, mais je suis aussi une petite jeune fille. Et elle a tous les compliments et tout, et que je te flatte, et que je te... Et puis moi, on ne voit pas. Peut-être qu'elle a eu une réaction, parce que pour moi, je vois, comment qu'on appelle ça, la solidarité dans les camps, moi je pense toujours nourriture. Mais dans le fond, il n'y a pas que la nourriture qui compte. Et Simone a eu un élan de solidarité envers moi, en me donnant cette robe. J'étais mal habillée, j'avais ce que j'avais fait avec mon père et tout ça. Je pensais que mon neveu aussi était parti en fumée. J'avais plus de morale, et quand on n'a pas de morale, souvent c'est très très mauvais dans les endroits comme ça.
Oui, c'est ce que vous écrivez, vous écrivez « Perdre le moral, c'est précipiter la mort ». Donc il fallait garder le moral, et cette robe...
Et bien cette robe, ça m'a fait un coup de fouet. Ça a été ma vitamine.
un peu, Ginette Colinca, comme vos sœurs que vous retrouvez en rentrant alors que vous pesez 26 kilos à 20 ans. Et 26 kilos à 20 ans. Vous parlez de la faim, vous parlez de la nourriture, ça a été comme une obsession, vous le dites, vous l'écrivez beaucoup. Mais donc un peu comme ces sœurs qui vous permettent de vous remettre dans la
exactement,
vie.
Exactement, c'est mes sœurs aussi qui font que j'ai ce tempérament gai comme ça.
Joyeux. Moi, combatif.
Oui, parce que c'était peut-être mon caractère, mais si j'avais été retrouver ma mère seule, certainement que je n'aurais pas eu ce même caractère. Certainement.
Et puis vos sœurs vous font découvrir à cette époque-là les choses nouvelles, les choses de la vie, les chansons notamment, et par exemple celle-ci.
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, y a des chansonnettes et y a du vin blanc, le petit vin blanc. On boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens.
Et puis de temps en temps,
un air de vieille romance
semble chercher la cadence.
Vous en souvenez encore, Ginette Colinca, vous la chantez, cette chanson, vous l'aviez apprise avec vos sœurs.
Oui.
Vous dites cette chanson vous a longtemps suivie.
Chaque fois que j'entends, maintenant c'est fini, on ne l'entend plus. Mais chaque fois que j'entendais cette chanson, je revoyais mes sœurs au pied du canapé où j'étais et qui me disent, première parole, tu vas voir Ginette, on a appris des chansons, c'était le petit vin bleu. Et en plus on chante faux dans la famille.
Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps,
Ginette Colinca est l'invitée exceptionnelle des matins du samedi pour la dernière de la saison. On retrouve notre invitée ce matin, Ginette Colinca, qu'on est extrêmement heureux, intimidé, ému de recevoir dans les matins du samedi de France Culture. Ginette Colinca publie avec Marion Ruggieri « Retour à Birkenau ». Ginette Colinca, c'est un livre qui commence par un retour, en fait, dans cette commune polonaise de Birkenau, 55 ans après, et ça s'ouvre sur un choc, le choc de découvrir que ça n'a évidemment plus rien à voir avec ce que vous aviez connu. Pourtant, vous y retournez tous les ans, vous accompagnez des classes là-bas. Est-ce qu'accompagner des élèves sur ce lieu, qui est un lieu de mémoire, mais qui aujourd'hui est habité par des gens qui vivent dans des pavillons, vous le décrivez avec des jardins, des toboggans, est-ce que ça a du sens, au fond ?
Je n'avais pas du tout l'intention d'y retourner. C'est le hasard qui m'a fait y retourner. Et c'est vrai que chaque fois, la première fois que j'y suis retournée, j'essaie. D'abord, le choc. J'avais le souvenir d'un Birkenau où on voyait de la saleté partout, où il y avait une odeur tenace. Et cette odeur, c'était l'odeur de la saleté, c'était l'odeur des corps qui brûlaient. Et partout, il y avait des allées, vous voyez des gens, ça grouillait dans tous les coins, tout le monde courait. Il fallait toujours courir, toujours schnell, schnell, schnell. Vous aviez des groupes partout, dans tous les coins, qui creusaient, qui couraient. Et là, rien, rien. C'est ça, Birkenau. Et la première fois, j'essayais, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Et c'était la première fois. Donc après, je me suis dit, la première fois, je n'ai pas de sentiment parce que je suis toujours en train d'essayer de reconnaître quelque chose. Et puis, les gens qui me parlaient, j'ai dit, peut-être c'est la seconde fois que j'aurai des réactions. Eh bien non, je n'ai pas de réaction. Bon, le Birkenau qui est dans ma tête n'est pas le Birkenau que je vois. Donc pour moi, je suis dans un lieu qui n'est pas le mien.
Vous écrivez avec Marion Ruggieri, Birkenau maintenant, c'est un décor Quelqu'un qui n'en connaît pas l'histoire peut ne rien voir. D'ailleurs, quand j'y retourne, je dis toujours aux élèves, surtout, fermez les yeux, ne regardez pas. Et je leur répète, sous chacun de vos pas, il y a un mort. Un peu plus loin, vous dites Auschwitz, c'est différent. Auschwitz, c'est un musée. Pourquoi cette différence?
Parce que Auschwitz, c'était une caserne. Quand vous arrivez à Auschwitz, déjà, il y a une grande différence. Ce sont des routes que vous avez partout. Puis vous avez des bâtiments en dur. À Birkenau, vous n'en voyez pas. Ce sont que des baraques. Et même maintenant, il n'y a même plus de baraques parce qu'ils les ont remplacés par des cheminées. Il n'y a pas de comparaison entre Auschwitz et Birkenau. Et même les prisonniers qui étaient à Auschwitz n'étaient pas les mêmes qu'à Birkenau. Il y avait très très peu de juifs à Auschwitz, beaucoup beaucoup de résistants. Et quand il y avait des juifs, c'était parce que c'était un peu la classe au-dessus. Il y avait des ingénieurs, il y avait des chirurgiens, il y avait des... Birkenau, c'était la basse classe, si vous voulez. Enfin, la basse classe, alors qu'il y avait des gens qui avaient des grandes situations aussi à Birkenau. Mais on était tous pareils, hein. Ça se voyait pas. Mais tandis qu'à Auschwitz, c'était différent. Moi, je me fais disputer de dire ça, par exemple. On pourrait comparer Auschwitz-Birkenau. Birkenau, c'est un camp de vacances. Et puis Auschwitz, eh ben, c'est une classe déjà au-dessus. Je ne dis pas le club méditerranéen, mais un peu, si vous voyez, cette différence.
Heureusement que c'est vous qui le dites.
Mais attention, prenez pas ça...
Au pied de la lettre.
Au pied de la lettre.
Mais bien
c'est
entendu.
Une comparaison.
Bien entendu. Ben justement, puisque vous parlez d'aujourd'hui, de ces lieux aujourd'hui, Ginette Colinca, et que tout à l'heure, vous racontiez à quel point votre cheval de bataille, c'était la haine, quoi. C'était le fait de considérer que la morale de cette histoire, s'il en faut une, eh bien, c'est comprendre, voilà où mène la haine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt inquiet ou plutôt qui fait confiance à ces nouvelles générations qui vous écoutent, qui sont attentifs?
Eh bien, les deux. D'un côté, je suis inquiète de ce qu'on me dit. Et de l'autre côté, je suis confiante de ce que je vois. Moi, je n'ai pas Internet. Je m'y mettrai quand je serai vieille. Donc, on me dit, c'est affreux ce qui est dit sur Internet. Mais comme moi, je vais dans les écoles, dans les classes et tout ça, que les enfants m'écoutent, que les professeurs qui me font venir, ce sont des professeurs qui n'ont pas du tout un seul idée d'antisémitisme et de racisme, eh bien, voilà, je ne vois pas le reste. Par contre, c'est vrai qu'on en parle, encore là, tout à l'heure, entre une dame m'a dit que son fils s'est fait traiter de sale juif, par un autre élève, et c'est pas possible ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et quand on parle aux enfants, ils ont l'air de nous écouter, ils ont vraiment l'air d'être... Et d'ailleurs, ils le sont entre eux, d'accord? On les voit bien dans la cour, mais alors quand ils deviennent adultes, ça doit changer.
Il y a un grand écrivain israélien qui s'appelle Abraham Yehoshua, qui est de votre génération, Ginette Colinca, et qui dit, aujourd'hui, la mémoire est tyrannique parce que elle nous paralyse. Alors, il est écrivain israélien et il parle de son pays notamment. Mais il dit quand même, on parle trop de la Shoah chez nous. Ça nous empêche de penser parce que ça devient un obstacle pour avancer. Comment vous réagissez-vous à ça? Il dit, il y a trop de mémoire. Ça nous paralyse.
Non, vous savez, je suis une femme toute simple, hein. Je réfléchis pas à tout ce que je, le pourquoi, ni pour comment je le fais. C'est le hasard qui m'a lancé dans ces témoignages. Je le ferai jusqu'au bout. Je rencontre des gens particulièrement agréables, les professeurs, beaucoup. Et je peux dire merci aux professeurs. Parce que on leur doit beaucoup pour justement parler de ce problème. Mais le restant, je ne cherche pas le pourquoi des choses.
Vous le cherchez peut-être pour la haine, mais pas pour l'action que vous menez.
L'action, je l'espère, qu'elle sèmera des petites graines, sans en être tellement persuadée. Parce que les enfants, quand ils nous écoutent. Dans les classes, les jeunes sont mélangés. Je suis contente quand je vais dans un établissement où vous avez des personnes de couleurs différentes, de types différents. Je suis contente. Ils sont copains et tout. Mais c'est quand ils deviennent adultes et qu'ils arrivent à trouver des gens qui arrivent à leur faire croire que c'est ce qu'ils disent qui est bien. Et c'est pour ça que je dis, si vous avez des bonnes idées, gardez-les. Ne vous laissez pas influencer par les autres.
C'est ça que vous leur dites aux enfants ?
Oui, même avec les parents. Les parents, si vous entendez des parents qui ont des propos racistes ou antisémites, demandez-leur pourquoi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux et de leur demander des explications.
Vous rêvez encore d'un autre monde, Ginette Colinca ?
C'est sûr que je rêve d'un autre monde. Et Jean-Louis Aubert, quand il a écrit sa chanson, il ne savait pas à quel point j'étais d'accord avec lui.
Je me trompe si je dis que votre fils était batteur ou l'est encore du groupe ?
Oui, naturellement, qu'il est toujours batteur. Il était batteur du groupe. Naturellement, le groupe maintenant s'est disloqué. Et lui, il est toujours batteur.
Ah ben on va se terminer avec Téléphone alors.
Ah ben je rêvais d'un autre monde. Et rêver d'un autre monde, ça je suis d'accord entièrement avec cette chanson.
Un immense merci, Ginette Colinca.
Merci, ça suffit.
Retour à Birkenau, c'est ce récit que vous avez fait avec Marion Ruggieri.
Il ne faut pas l'oublier.
Je ne l'oublie pas, voyez.
C'est elle qui a... Moi, je ne suis rien du tout. Je suis que le sujet. Mais je trouve que c'est elle qui mérite tous les compliments et tout ce qu'on me met. Parce qu'elle a su raconter mon histoire d'une façon très simple, pas romancée du tout. Et quand je le lis, je m'entends.
Elle appréciera, Marion Ruggieri. Retour à Birkenau chez Grasset. Je crois que le plus beau compliment qu'on peut vous faire, c'est de dire que c'est un récit vivant. Et c'est dit
oui,
du fond du cœur.
Exact.
C'est merci
ce que
à
je
vous.
Lui dis, il est vivant, ton livre.
Merci, Ginette Colinca.
Il n'y a pas de quoi.
Voilà, c'était un entretien réalisé il y a quelques jours avec Ginette Colinca. On a eu beaucoup de chance parce que qu'elle accepte, hein, parce que Ginette Colinca sillonne les routes de France et de Navarre en permanence pour aller donc à la rencontre de ces jeunes écoliers, lycéens, collégiens, qu'elle raconte son histoire donc inlassablement.